Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h40, il est grand temps de défaire le monde. Maintenant dans RTL Soir, la bande est réunie. Cyprien Cini, Laurent Tessier, Céline Landreau. L'info différemment, autrement, jusqu'à 19h. Quel est le programme ce soir, Cyprien?
Ce soir, on défait la croissance. La Banque de France table sur une croissance de 6,7% cette année. Un record depuis 50 ans. Mais la croissance, c'est quoi? Qui en profite? Vous allez tout comprendre. Au menu également, le foie gras sur le grill, l'école dans la forêt et les très très chères citrouilles de Louis de Funès. On défait le monde à la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
La croissance française sur 2021 sera à 6,7%. C'est le plus haut chiffre de croissance depuis plus de 50 ans.
François Villeroy de Gallo, c'est le gouverneur de la Banque de France. Il a annoncé la bonne nouvelle en exclusivité sur RTL ce matin. 6,7% de croissance, donc grosso modo, on sait tous que c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, mais avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu savoir exactement à quoi correspondaient concrètement ces indicateurs de croissance qu'on nous annonce régulièrement.
Comment on calcule la croissance? Au-delà des pourcentages, qu'est-ce que ça représente vraiment pour l'économie? Et surtout, à qui ça profite?
Pour nous éclairer, on a appelé l'économiste Philippe Crevel. Il est directeur du Cercle de l'épargne. Et pour calculer la croissance, c'est finalement assez simple.
La croissance, c'est la somme de toutes les productions en France et également le solde entre importations et exportations. Plus les exportations sont importantes, plus ça favorise la croissance. Ça signifie que les richesses que tous les Français réalisent, produisent au cours d'une année, ont augmenté de 6% par rapport à l'année précédente. Collectivement, nous sommes plus riches que l'année dernière.
Ok, mais ça, ce sont des pourcentages. Concrètement, on sait combien ça représente,
hein? Oui, oui. Et alors, je peux vous dire qu'un seul tout petit pourcent de croissance, c'est déjà beaucoup, beaucoup d'argent.
1% de croissance en plus, c'est plus d'une vingtaine de milliards d'euros qui sont créés et qui vont être répartis entre l'État, les régimes sociaux, et puis les salariés, les actionnaires, entre nous tous. Ça met de l'huile dans les rouages. Il vaut mieux en avoir 6 que pas du tout.
1%, ça représente plus de 20 milliards d'euros.
Oui, donc avec 6,7%, ça veut dire plus de 130 milliards d'euros, j'ai pris la calculette, de plus que l'an dernier.
C'est vrai, énorme. Il a vraiment pris la calculette.
Oui, je suis nul en maths. Non mais c'est énorme, c'est rarissime, une première en 50 ans. Alors c'est une bonne chose pour nous tous, mais après, ne nous emballons pas non plus, hein. C'est pas pour ça que vous allez changer de train de vie du jour au lendemain.
Tous les Français ne vont pas gagner 6,7% de pouvoir d'achat, c'est une moyenne. Plus de croissance, c'est évidemment plus d'emplois. Et quand il y a des emplois, il y a de la rémunération, il y a des salaires qui sont versés. Et donc ça signifie que les Français qui ont retrouvé un emploi peuvent davantage consommer. Et puis pour ceux qui étaient déjà en emploi, c'est la possibilité peut-être de bénéficier de hausse de revenus. 6,7% de croissance, ça va se répartir entre les personnes qui travaillent, les salariés, également les actionnaires, également l'État, hein, qui va bénéficier de ressources fiscales supplémentaires. L'État est un des grands bénéficiaires quand il y a de la croissance, parce que les impôts vont rentrer plus fortement dans les caisses.
Et l'activité économique en France a désormais dépassé son niveau d'avant la crise du Covid.
Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple quand Philippe Crevel, l'économiste, parle. Tout est concret, tout est plus clair.
RTL, sous les radars.
Tous les soirs, dans Défait le monde, une info dont vous n'avez pas entendu parler.
Avec une première en Suisse, alors je vous préviens, c'est à la fois inquiétant et fascinant.
Oui, ce sont nos confrères de Swiss Info qui nous ont alertés sur une capsule un peu particulière, Sarko, qui pourrait révolutionner l'approche du suicide assisté, qui, on le rappelle, est légal en Suisse. Alors, Sarko, comme sarcophage.
Oui. Hein. Ouais.
Sarko ressemble un peu à une capsule spatiale imprimée en 3D qui peut être activée par la personne qui se trouve à l'intérieur et qui donc a décidé de mourir. Mais là, pas question d'ingérer du pentobarbital de sodium, comme actuellement lors des suicides assistés, non. La capsule est située sur un équipement qui va inonder l'intérieur de la capsule d'azote. Du coup, eh bien, le niveau d'oxygène baisse de 21 à 1%, explique le fondateur de la société australienne Exit International, qui l'a mise au point. Et donc, face à cet afflux d'azote, la personne peut, explique-t-il, se sentir un peu désorientée, voire même euphorique, avant de perdre conscience. Le décès lui intervient par hypoxie et hypopcanie. Le tout dure une trentaine de secondes, sans panique ni sensation d'étouffement. En tout cas, c'est ce que promet le fondateur de la société, qui assure aussi qu'il a consulté des juristes et que Sarko semble bien légal en Suisse, où une première capsule pourrait être installée en tout cas, il l'espère, dès l'année prochaine.
C'était passé sous les radars. Ouais. C'est effectivement, comme vous disiez, inquiétant et fascinant.
Fascinant et inquiétant. Ouais.
On ne sait pas trop quoi en penser.
Non, ça hein, fait un peu peur.
Ah, mais ça, je vous laisse penser ce que et vous alors, voulez.
Exactement. Vous pouvez regarder les images de la capsule sur Internet. Moi, rien que de regarder la capsule, je trouve ça angoissant.
Vous êtes un peu claustrophobe.
Ouais.
J'avais compris. Une petite pause. On continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Et on va briller avec Louis de Funès. À tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48. Effectivement, on défait le monde dans RTL Soir. Et chaque soir, on vous offre ces cadeaux, c'est gratuit, des infos pour briller au dîner. Voici la première.
Double anniversaire aujourd'hui pour Louis de Funès. La folie des grandeurs et la grande vadrouille sont sortis un 8 décembre, il y a 50 ans.
Ah, les films de Noël.
Bah oui, et 55 ans, ça tombe bien. Et vous, Laurent, ce que vous préférez, c'est clairement la grande vadrouille.
Sans hésiter. Vous vous souvenez de cette fameuse scène où Bourville et de Funès, installés dans un camion, jettent des citrouilles avec l'aide d'une bonne sœur sur les motards allemands.
Throw the pumpkins at them. No, Macintosh. Qu'est-ce qu'il a dit ?
On leur lance des citrouilles.
Alors, il y avait un petit problème pour tourner cette scène. On était alors au mois de mai et ce n'est pas du tout la bonne saison pour la citrouille.
Ah bah oui,
normalement, sinon, on ferait Halloween en mai.
Exactement.
Sinon, merci. Oui.
Bien vu, Céline.
Et pas qu'en octobre.
Alors, la production du film n'a reculé devant rien. Elle a dû acheter 150 potirons chez l'épicerie et traiteur de luxe Fauchon à Paris. Voilà. Et à prix d'or, vous l'imaginez en cette période.
Vous avez le prix en ancien franc ou pas?
Ah non.
Non, bossez un peu, Laurent. C'est un
il
peu
manquait.
Juste.
Hein. Bravo pour la saisonnalité, en tout cas.
Ouais, très bonne
année. C'était très bien.
Julien Cellier, Cyprien Cini ont défait le monde.
Allez, terminer les plaisanteries parce que elle blague rarement, il faut le dire. Céline Landreau, chaque soir, désigne à cette heure-ci précisément le winner ou le loser du jour.
En ce moment, ça devrait être le grand gagnant. C'est la période où il devrait être célébré, starifié. Et pourtant, il est de plus en plus mis au banc. Le grand perdant du moment, c'est le foie gras, Céline.
Ah oui, je voulais vous parler de ce mets qui, normalement, vit son heure de gloire à cette période de l'année.
C'est la star des repas traditionnels de Noël.
Le foie gras.
Le foie gras.
Un bon foie gras.
Hein. Ah bah oui, bon foie gras. Et toutes ces déclinaisons magnifiées par Maïté.
Eh bien, on va faire des terrines de foie gras à l'armagnac, des terrines de foie gras au champagne, terrines de foie gras au poivre vert.
Du foie gras en pagaille, on vous dit, à l'approche de Noël.
Le foie gras. Exceptionnel à chaque fois.
Oui, mais cette année, certains ont décidé de l'enterrer. La star a un petit parfum de paria et tout a commencé en Alsace.
À Strasbourg, la maire écologiste Jeanne Barseguian a décidé de supprimer le foie gras dans les réceptions officielles de la ville. Une mesure en adéquation avec sa politique sur le bien-être animal, c'est ce qu'elle dit.
Plus de foie gras sur les toasts de la municipalité de Strasbourg et la maire écologiste a fait des émules. Désormais, c'est aussi le cas à Lyon.
Le foie gras sera banni des réceptions officielles de la ville de Lyon.
Décision idéologique, explique-t-elle, au nom du bien-être animal.
Lyon, capitale de la gastronomie. Et alors, si vous vous demandez si les restaurateurs lyonnais ont l'intention de suivre leur maire ou plutôt de soutenir les producteurs, eh bien, on a eu un début de réponse avec Christophe Marguin, le président des Toques Blanches, tout à l'heure dans RTL Midi.
Je pense que je vais faire un deuxième plat de foie gras parce qu'il faut au contraire les soutenir dans cette période difficile. On arrive au moment des fêtes, en plus c'est du symbole, c'est que taper sur eux à 15 jours Noël en disant qu'il ne faut pas manger du foie gras, c'est pas bien.
Ouais, bon, donc le foie gras a priori encore des beaux jours devant lui. Et si jamais vous faites partie des...
Les frugivores.
Des quoi ?
Les frugivores.
Voilà, les gens qui aiment les fruits.
Ah oui. Eh bien, il y a une solution pour contenter tout le monde.
Eh bien, on va leur faire le foie au pomme. Le foie avec la poire. Et ça, c'est pour le foie avec les kiwis.
Ah oui, du foie gras au kiwi. Comme quoi, c'est possible avec une touche de verre. Bon, en revanche, ça résout pas la question du bien-être animal. On attend maintenant de voir s'il y aura des toasts au foie gras ou pas à la mairie écolo de Bordeaux.
J'aurais aimé voir Maïté là, en ce moment, en cette période, nous proposer des recettes véganes. Ça aurait pu être absolument fantastique. Merci beaucoup, Céline. Petite pause. Dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. On reste sur quelque chose d'assez polite, burger au dîner dans un instant.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Cini. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, bonne soirée avec RTL. On continue de défaire le monde encore pendant quelques minutes dans RTL Soir avec une nouvelle info pour briller dans les instants qui viennent au dîner.
Et jusque-là, elle caracolait en tête, mais voilà, la pizza est détrônée. Elle n'est plus le plat le plus livré en France, Céline. Pour la première fois, le hamburger passe devant. Et ça, ça vous a mis l'eau à la bouche. Ou plutôt, au dico.
Oui, parce que si vous imaginez que le hamburger était américain, vous faites fausse route. Oh. Non, il vient d'Hambourg, le hamburger.
Ah.
D'ailleurs, comme le souligne l'Académie française. Littéralement, hamburger signifie beefsteak en bourgeois. Mais bon, ce qui est vrai, c'est que ce sont les Allemands qui ont immigré aux États-Unis qui l'ont popularisé. D'abord dans les bateaux de la compagnie d'Hambourg qui traversaient l'Atlantique et sur lesquels le steak de bœuf haché était le plat principal, le plus vendu. Ensuite, en Pennsylvanie, où les Allemands sont très implantés à l'époque, la coincée entre deux tranches de pain rond, le hamburger se répand avec une rapidité fulgurante et particulièrement dans les milieux ouvriers.
La petite histoire du burger, c'est génial ça. Moi j'aime beaucoup le hamburger, j'aime beaucoup Louis de Funès. Je n'arrive pas à choisir. Bah pourquoi ça vous pose un problème, Laurent?
Vous c'était bien. Comme ça.
Voilà, bon, partout, mal au centre, comme souvent. Faites votre choix, vous, à la maison avant le dîner qui arrive.
Marche ou rêve?
Allez, tous les soirs, ça c'est le moment du coup de fil réjouissant. On vous appelle et on met en avant vos idées, vos initiatives.
Ça ressemble à l'école buissonnière. Ça a l'aspect de l'école buissonnière et pourtant, ben c'est bien de l'école, Laurent.
Oui, dans le Cantal, des élèves de l'école maternelle et élémentaire du village de Lavessière sont les locataires d'un petit bout de forêt. Ils apprennent à protéger la nature. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Laurent, bonsoir à l'équipe de RTL.
Vous êtes le directeur de l'école. Comment ce projet est né ?
Alors ce projet est une initiative commune de la part des enseignants, de la municipalité et de l'Office national des forêts. Nous souhaitions développer des valeurs autour de l'écologie d'une manière un petit peu innovante pour impliquer les enfants. Et notre chemin a croisé la Fédération nationale des communes forestières qui initie un projet qui s'appelle « Dans 1000 communes, la forêt fait école ». Et on a tout de suite adhéré à ce projet.
Et comment ça se passe concrètement avec les enfants alors ?
Alors nous, on avait trois thèmes à leur faire découvrir qui nous tenaient à cœur. C'était valoriser le patrimoine local, découvrir et gérer cette réserve biologique, et puis aussi échanger avec des enfants d'autres écoles un petit peu plus lointaines. Et c'est vrai que ce projet répond à nos attentes. Donc la mairie nous a attribué une parcelle d'un hectare et demi qui est située au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et qui est devenu notre nouvel espace de vie et d'activité.
Qu'est-ce que vous y faites exactement dans cette parcelle concrètement ?
Au fil des saisons, on peut y découvrir le cycle de vie d'un arbre. On peut inventorier les espèces. Ça peut être aussi rechercher les traces d'animaux. Puis d'une manière un peu plus scientifique, c'est développer la mesure des arbres, comment ils grandissent, à quelle allure, et comprendre aussi ce qui peut ralentir et freiner leur pousse. On a objectif d'y aller environ une fois par mois pour cette année-là.
Alors tous les élèves de l'école sont mobilisés et justement à vos côtés Grégory, Maddy, élève en CM2. Bonsoir Maddy.
Bonsoir.
Tu as 10 ans, qu'est-ce qui te motive dans ce projet ?
Qu'on apprend la nature, qu'on a une forêt à nous tout seul et qu'on y va régulièrement.
Qu'est-ce que vous y faites quand vous y allez ?
Et la dernière fois qu'on y a été, on a fait une course d'orientation.
Et alors qu'est-ce que ça t'a appris de travailler comme ça en forêt? Qu'est-ce que tu as appris là-bas?
J'en ai appris un peu plus sur la nature, les arbres. Il y avait des énigmes. Comment on peut savoir combien d'années a un arbre?
Et alors
On compte les ronds qu'il y a dans le tronc.
C'est mieux que les cours de maths quand même, non?
Oui.
Et du coup, ça te donne envie de mieux protéger la forêt? Est-ce que tu en parles avec tes parents aussi?
Oui. Je leur dis ce qu'on a fait à l'école avec les petits et les plus grands.
Eh bien, merci Maddy. Merci Grégory. Bravo pour ce projet mené par tous les élèves de l'école du village de Lavessière dans le Cantal. Bonne soirée.
De rien.
Merci et bonne soirée à tous.
Merci à tous les deux. Bonne soirée. Merci les amis dans des faits de monde. On se retrouve demain 18h40 dans RTL Soir. D'ici là, bonne soirée. Dans un
bonne
instant,
soirée.
Ce sera le journal de 19h, juste avant. Toujours à contre-temps.
Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention.
Ah oui, on fait attention parce que là, on est en retard. 19h approche. Peggy n'a pas eu le temps de faire sa météo.
Qu'est-ce que vous
avez à nous dire?